Studio 45
vous présente l'émission participative enregistrée depuis la guinguette génoise.
Bonjour et soyez les bienvenus sur Studio 45 pour cette émission participative réalisée à la guinguette génoise dans le cadre de promouvoir l'échange et la communication de proximité. Tout d'abord, nous tenons à remercier la belle petite équipe de la guinguette génoise, dont notamment son initiateur Olivier Goujon, qui nous a permis de réaliser cette belle initiative. En avril, nous avons pu réaliser un entretien afin d'échanger sur ce projet ambitieux qui a pour objectif de faire revivre ce lieu mythique cher aux Giennois, qui est le Port au Bois. Bonjour et soyez les bienvenus sur Studio 45 pour cette émission participative réalisée à la guinguette giennoise dans le cadre de promouvoir l'échange et la communication de proximité. Tout d'abord, nous tenons à remercier la belle petite équipe de la guinguette giennoise, dont notamment son initiateur Olivier Goujon, qui nous a permis de réaliser cette belle initiative. En avril, nous avons pu réaliser un entretien afin d'échanger sur ce projet ambitieux qui a pour objectif de faire revivre ce lieu mythique cher aux Giennois, qui est le Port au Bois, avec une scène dédiée programmant prestations artistiques, culturelles et associatives, puis des expositions artisanales, le tout en dégustant de bons produits venus du terroir.
Bonjour Romuald. Pouvez-vous me présenter le projet de la guinguette génoise?
Alors oui, bien sûr. Alors la guinguette génoise, tu veux savoir d'où c'est parti au départ?
Oui, savoir un peu le concept, d'où est venue l'idée.
Alors l'idée, elle est venue en fait de deux choses. La première, c'est parce que je réalise, si certains savent, je suis réalisateur de films pour le cinéma. D'accord. Et ces quatre dernières années, en plus des films de fiction, j'ai réalisé des documentaires sur bien se nourrir, bien s'alimenter, sur les producteurs locaux à travers la France. J'ai fait des tours de fermes, d'associations. Enfin bref, essayer de militer pour laisser notre planète un peu dans le meilleur état qu'elle ne l'est actuellement. Voilà. Et je me suis rendu compte, après avoir sorti deux films et une série complète, et avoir fait des dizaines de débats dans les salles de cinéma et toutes ces choses-là, que beaucoup de gens qui venaient soit sont déjà convaincus, donc ils viennent pour apprendre des nouvelles choses, et puis que les autres, malheureusement, ceux qui sont pas convaincus, on a beau leur montrer, leur démontrer par A plus B que c'est possible, qu'on peut manger sainement, localement, sans payer plus cher et tout, les gens ne me croyaient pas. Donc je me suis dit, en fait, finalement, je me suis posé la question, est-ce que je vais repartir faire un troisième film pour continuer, ou alors je me suis dit, je vais arrêter de faire un film et cette fois-ci je vais le faire pour de vrai, c'est-à-dire je vais ouvrir quelque chose qui va, où on va manger localement, que ce soit pas plus cher que dans n'importe quel restaurant, supermarché ou grande chaîne qu'il peut y avoir. Voilà, c'était le départ, c'était ça, c'était de pouvoir promouvoir aussi le local et montrer qu'on peut tout simplement manger sainement à côté de chez soi sans que ça nous coûte plus cher qu'ailleurs. Et la deuxième chose était aussi tout simplement de rapporter à Gien de l'animation, quelque chose de nouveau, avec une philosophie un petit peu, on va dire, différente de ce qui peut se faire actuellement, et recréer la ville où je suis né, qu'elle reprenne un petit peu de vie, et surtout au Port au Bois, auquel j'ai passé moi une partie de mon enfance et qui me tenait à cœur.
Ça, c'est un super concept. Animation, nourriture, c'est vraiment le bon mélange pour vraiment faire un très bon concept. Et surtout, le Port au Bois, vraiment, c'est un lieu mythique de notre ville. Comment, du coup, ça s'est fait au niveau des démarches, que ça soit avec la municipalité, ça a été comment
Alors, ça s'est extrêmement bien passé avec la municipalité de Gien, parce qu'en fait, j'ai rencontré donc Francis Camal en début d'année dernière, en lui disant « J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour Gien, est-ce que tu me laisserais te présenter un projet ?» Francis m'a dit, bien entendu, c'est pas la première fois que je lui proposais un projet après les films, il m'a dit, propose-moi quelque chose et on en discutera. Un mois après, j'étais dans son bureau avec le projet de guinguette. Voilà, il m'a dit, c'est exactement ce qu'on a besoin pour Gien, ça va vraiment ramener tout ce qui pourrait aujourd'hui nous manquer. Et on s'est mis donc d'accord avec la municipalité, on a travaillé ensemble et en quelques mois, tout était prêt. En dehors de ça, le problème est que travailler avec les municipalités de Gien, c'est un vrai bonheur, puisqu'on a vraiment une équipe qui est ouverte aux idées, qui est toutes ces choses-là. Mais la vérité est que on ne peut pas passer que par eux. Il faut avoir affaire à toutes les autres administrations. Et là, on est en dehors du parcours du combattant. On est dans de la folie administrative française totale.
Ouais, c'est une grosse étape, que ça soit avec la préfecture, mais aussi d'autres centres d'administration.
Ouais, le problème est même pas que c'est une grosse étape. Le problème, c'est que je sais même pas comment le dire gentiment.
C'est quoi les genres de démarches qui est, on va dire, un peu farfelu?
aucune n'est un peu farfelue. En fait, c'est l'incompétence des gens à qui on demande des choses qui est, farfelue. C'est qu'ils ont, rien à faire qu'on monte des projets. En fait, dès qu'on sort de la ville, parce que tout le monde est partant, la municipalité est partante, les associations étaient partantes, les Génois étaient partants, mais en dehors de ça, tout le monde s'en fout. Le problème, c'est que, on a besoin de ces autorisations-là pour avancer.
Ah bah oui.
Et donc, pour vous donner, on va pas rentrer dans le détail, mais la vérité est qu'avec la commune, il nous a fallu 3 mois tous ensemble pour monter le projet. Voilà.
3 mois quand même.
3 mois, c'est vraiment rien parce que moi j'ai travaillé de mon côté. Eux, on a discuté pour trouver le meilleur équilibre entre nous tous et que ça soit vraiment positif pour Gien. Et il a fallu plus de 14 mois de papier avec tous les autres autour pour la seule bonne raison, c'est que, je vais le dire honnêtement, ils sont soit incompétents, soit ils s'en foutent. Mais il y a un problème. On est submergé d'emmerdement à la seconde où on veut mettre quelque chose, quoi. Donc c'est totalement anormal.
Mais au moins c'est une réussite, vous avez ouvert et puis du coup comment ça s'est passé les débuts de la guinguette génoise?
Alors le seul mot c'est extraordinaire. Les débuts de la guinguette génoise, on a fait le plein dès le premier jour et on n'a pas des amplis de tous les autres jours. Tous les Génois ont accroché au projet, à la philosophie, parce qu'il faut aussi expliquer que quand on travaille avec des producteurs locaux, on peut pas, c'est pas de l'industrie, on peut pas appeler du jour au lendemain pour changer. Quand on s'est retrouvé en manque un petit peu de nourriture et de boisson parce que on a eu une grande affluence, j'ai pas couru au supermarché pour aller acheter de la nourriture que je connais pas et proposer des mauvaises choses. Donc on a refait la carte, on l'a expliqué aux gens, et puis le retour est extraordinaire, déjà sur les producteurs locaux, parce que tout le monde nous a félicité sur la qualité des produits. Alors même si moi j'y suis pour rien, c'est les producteurs qu'il faut féliciter. Et puis en dehors ça, du bon travail. Puis en dehors ça, la philosophie de ce qu'on voulait, c'est-à-dire de créer un endroit calme, convivial, où les Génois puissent se réunir et se passer un moment agréable. Et c'est exactement ce qu'on a eu, c'est ce que tout le monde nous a dit. Ce port au bois est parfaitement adapté pour ça. Et puis nous, voilà, avec Christophe, donc qui travaille avec moi, on essaye d'amener cette espèce de brin un peu de folie pour montrer qu'on peut faire les choses bien en les faisant un petit peu différemment des autres, et que ça fonctionne, parce qu'aujourd'hui, on a tous... Et les Génois me l'ont dit à X reprises pendant qu'on était ouverts, on a tous besoin de pouvoir sortir, souffler, décompresser de ce monde qui est chaque jour un peu plus oppressant quand même, et que on a peut-être on a voulu être décalé, on n'a pas voulu lâcher, mais qu'on a peut-être raison finalement.
L'environnement, le lieu est parfait. Franchement, pour ouvrir une guinguette, il n'y a rien de mieux.
C'est ça. Exactement. Parce que tous les gens nous ont dit, ceux qui restaient le soir, quand on était vers 22, 23 heures avant la fermeture, nous ont dit, c'est tellement agréable d'être au bord de Loire, ce calme, ces petites lumières qu'on a installées, qu'on n'a pas envie de partir.
Oui, c'est sûr.
Voilà. Donc ça, pour moi, c'est, voilà, j'ai réussi. C'était mon bonheur à moi. Le but n'était pas de créer quelque chose. On est là pour faire de l'argent. Loin de là. Sinon, on l'aurait fait autrement. Bien entendu. Non, le but était vraiment de créer quelque chose. Un endroit où les Génois se sentent bien. Où ils puissent venir et qu'on puisse avoir un petit peu ce que je trouve des fois on a perdu dans la société. C'est-à-dire retrouver des contacts humains sains et simples. Et j'ai vécu, moi, 5 jours d'entente humaine, comme ça faisait longtemps que j'avais pas vu, et ça c'est ma réussite à moi.
Bien, c'est vraiment un super grand projet, hein, cette guinguette, une belle réussite surtout. On espère que ça va s'aboutir dans les années, mais on s'inquiète pas, hein, forcément. Vraiment, en plus ici, dans ce port au bois, un très grand lieu qui rassemble tous les Génois. C'est la meilleure des réussites, on va dire.
C'est ça, exactement. Quand je vois que moi, samedi, le parc était plein d'une entrée à une autre, je l'avais pas vu comme ça depuis des années, hormis quand il y avait encore le bal du 14 juillet. Mais je veux dire, ça faisait longtemps, à mon avis, et ça, c'est super. Et quand on se dit qu'on a encore tout à faire, parce qu'on a fait le premier apéro-concert avec Joël Bourreux, qu'on connaît tous très bien, et avec qui on s'entend, qui est vraiment une personne formidable, et qui m'a dit, j'ai envie de sortir la guitare, j'ai envie de jouer, mais viens, justement, c'est un lieu vivant, c'est ce qu'on essaie d'expliquer aux gens, c'est que souvent on nous demande des choses assez carrées et tout, mais on n'est pas dans un lieu carré, on est un lieu qui va être vivant, qui va s'améliorer, qui va changer en fonction. On a eu des gens qui nous ont réclamé des choses, on y pense. Essayez d'écouter les Génois pour répondre aussi à leurs besoins, leurs demandes. Et puis voilà, on a aussi prévu, bien entendu, il y a plein de choses qui vont arriver. Donc là, je suis en train de m'occuper du programme des animations. Donc notamment, on nous demande souvent les concerts, mais il n'y a pas que ça. Moi, je vais faire du cinéma de plein air. On va quand même passer, très bientôt, on va passer certainement pas loin d'une douzaine de films. J'en ai 12 à moi.
De vos créations aussi, du coup?
De mes créations principalement, parce que après, le cinéma français aujourd'hui, on va dire, on ne s'entend pas particulièrement bien. Donc, on va passer les créations parce que nous empêcher de les passer. Donc, on a créé un lieu, on va les passer. On a des films très intéressants. Donc, on va en faire profiter. Surtout que c'est des lieux, surtout que c'est des films qui ont été tournés dans le Giennois, avec des acteurs giennois et avec de la musique composée dans le Giennois. Donc, pourquoi aller chercher plus loin? Puisque le but, justement, est de faire vivre le Giennois. Donc, on va passer des films comme ça. D'ici une semaine à 15 jours, on va mettre gratuitement à disposition des jeux de société pour tous les gens qui le souhaitent à la guinguette, bah justement pour continuer à partager autour d'une planche de charcuterie ou de fromage, bah de pouvoir s'amuser. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une petite épicerie qui est prévue aussi, parce que beaucoup de gens nous ont dit: ah, vous faites des produits locaux, c'est super, mais ils ont pas toujours le temps d'aller faire 30 km pour aller à la ferme. Donc on va faire en sorte que s'il y a des produits qui les ont intéressés, bah qu'ils puissent repartir avec.
Oui, c'est sûr.
Voilà. Et puis il y a encore tellement et tellement de choses qu'on a envie, pourquoi pas créer des paniers pique-nique pour que les gens, plutôt que de manger à table, puissent aller pique-niquer dans le port au bois au bord de l'eau. Voilà, on est ouvert à toutes les idées, plus les nôtres, et au milieu de tout ça, ben on va essayer de faire en sorte que tout fonctionne au mieux pour que tout le monde y trouve son bonheur.
C'est clair.
Eh bien, c'est vraiment très ambitieux tout ça, franchement. Ça fait vraiment vivre le local et vous la représentez très très bien.
Eh ben, je vous remercie beaucoup et j'ai toujours essayé dans ma vie de, on fait les choses bien ou on ne les fait pas. Donc, ça prend du temps, mais j'espère que tout le monde comprendra ce qu'on essaye de faire, mais pour l'instant, ça a l'air d'être le cas.
C'est ouvert du mercredi au jeudi de 16h à 21h, si je me trompe pas, et le samedi, dimanche de 15h à 23h.
Alors, non, pas du tout. Je recommence. En fait, on est ouvert actuellement, donc pour l'instant, on a prévu jusqu'au mois de juin, du mercredi au vendredi de 15h à 22h, et le samedi et le dimanche de 11h à 23h. En sachant que très, très, très prochainement, donc peut-être pas ce week-end vu le temps qui est annoncé, mais à partir du week-end d'après, on va aussi remettre une chose qu'on nous a énormément demandé. Tous les dimanches, nous allons refaire un bal. De midi à 16h à peu près, 16h, 17h, on va refaire un bal au port au bois pour accueillir tout le monde et pour avoir un endroit aussi où les jeunes comme les plus anciens peuvent venir danser.
Eh bien, c'est impeccable, c'est super, c'est très très bonne nouvelle, vraiment félicitations pour ce projet de la guinguette giennoise. Et je souhaite aussi remercier pour votre accueil, c'est très très chaleureux, vraiment, on sent vraiment toute l'énergie, la positivité voilà, de cette initiative. Et sincèrement, ça serait avec grand plaisir de découvrir tout ça, que ça soit dans les balles, mais aussi dans vos projets de films. C'est une très très belle découverte et je suis vraiment très, on va dire, hypé, hein, comme on dit dans le langage jeune.
C'est ça. Eh ben, merci beaucoup. C'est tout ce qu'on souhaitait. C'était vraiment, voilà, faire plaisir aux gens, créer quelque chose qui fasse plaisir, où les gens se sentent bien. C'est tout ce qu'on voulait.
Eh bien, merci beaucoup, Olivier.
Merci, Romuald.
Maintenant, place aux invités. Avec d'abord une association génoise naissante, L'Art de danser sa vie, un projet porté par Aïcha Medji et Elena Prévost, qui souhaitent promouvoir à un large public plusieurs styles d'art allant de la danse à la peinture, en organisant dès octobre des ateliers et des stages de découverte.
Bonjour Aïcha.
Bonjour Romuald.
Bonjour Elena.
Bonjour.
Vous faites partie de l'association L'Art de danser sa vie, donc vous êtes une jeune association. Pouvez-vous nous présenter votre association?
Nous, on est là aujourd'hui pour présenter une nouvelle association qu'on vient tout juste de créer, là, qui est vraiment toute récente, et qui s'appelle L'Art de danser sa vie. Donc c'est une association à travers laquelle nous allons proposer tous les mois deux ateliers ou deux stages. Donc, ça sera des stages ponctuels d'une heure et demie, deux heures, trois heures. Ça va dépendre des intervenants. Donc, ça va être des intervenants qu'on va solliciter dans la région, mais aussi dans toute la France.
D'accord.
Donc, vraiment. Et le but, ça va être vraiment de proposer l'art sous toutes ses formes. Donc, que ce soit avec la danse, que ce soit avec le chant, la musique, du théâtre, de la poésie, de l'écriture, de la peinture, alors du dessin, de la musique, enfin tellement de choses. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est tous les mois proposer de nouveaux ateliers et de façon à ce que le public génois puisse découvrir des nouvelles choses.
Et comment vous allez présenter ces ateliers, comment vous allez exposer du coup que ça se fera envers des comités, des entreprises, des associations?
Ouais. Alors ça va être proposé à tout public.
D'accord.
Bien sûr, ça va être sur inscription parce que voilà, donc il y aura un nombre limité à chaque atelier qu'on va proposer. Et eh bien, on a déjà créé une page Instagram et puis Facebook, et donc les gens vont pouvoir nous suivre à chaque fois les nouveaux ateliers qu'on va proposer.
Donc voilà. Déjà, il y a la base communicative qui est déjà présente, du coup.
Tout à fait.
Quel type d'art ?
Alors là, pour donner une idée concrète, oui. Par exemple, au mois d'octobre, donc on va démarrer en octobre parce que là on est en train de tout mettre en place.
Voilà.
Okay. Donc en octobre, on va commencer par un atelier d'écriture, poésie, donc avec une auteure qui a déjà écrit publié des romans, donc qui s'appelle Nicole Chailloux, qui est de la région et qui va proposer un atelier de d'écriture poésie. Je dis c'est le premier, non, ça sera le deuxième atelier du mois d'octobre.
Qui va se réaliser bien avant octobre.
Début octobre, okay. On aura un atelier. Alors, ce sera normalement le 12 octobre. On aura un atelier, le premier atelier, ça va être du moderne jazz,
oui.
Avec une danseuse professionnelle qui est d'Orléans, qui va se déplacer pour animer cet atelier. Alors, une chose qui est importante aussi, c'est que l'atelier va durer 1h30 pour ce premier. 1h30 pour les ados, à partir de 11 ans, et le deuxième atelier pour les adultes. Voilà, à chaque fois, on va essayer de proposer à partir de 11 ans et adultes. Et ce qu'on va proposer aussi, et là, ça nous tient énormément à cœur, on va proposer des ateliers parents-enfants, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment un besoin de reconnexion un petit peu avec la vie un petit peu à 100 à l'heure qu'on mène tous.
Oui, c'est sûr.
Et donc on a vraiment envie de proposer des ateliers par enfant. Et d'ailleurs le 12 octobre, le premier atelier qu'on va proposer, peut-être que d'entrée, ça va être un atelier, alors pas par enfant, mais on va peut-être faire un atelier qui s'adresse aux ados et aux adultes en même temps. Ça peut être intéressant.
Oui, ça peut être très intéressant, surtout que tout le public, forcément, ça permet aussi de rassembler, que ça soit les parents, aussi les enfants. C'est un très bon concept.
Ouais, ça nous tient à cœur.
Donc, vous avez dit que vous allez faire ça sur toute la région, mais que tout d'abord, c'est aussi très ancré local sur Gien.
Alors, non, c'est pas sur toute la région. C'est pas sur toute la région, c'est à Gien.
Juste à Gien.
Ce sont les intervenants qui vont venir de la région.
Oui, ce sont des artistes agréés vraiment de ce.
Voilà, ils vont venir de partout en France, mais c'est vrai qu'on va faire appel aussi beaucoup aux personnes de notre région.
Aux artistes vraiment locaux aussi.
Oui, nous, les ateliers vont vraiment se dérouler à Gien. Puisqu'on va avoir une salle à Gien, et donc ça va nous permettre vraiment en priorité de proposer pour le
Gien. Pour le moment, il n'y a pas encore cette salle qui vous est agréée, non? Vous n'avez pas.
Normalement.
C'est en cours de démarche, du coup.
Voilà. Mais non, la salle, voilà, nous on a une salle pour Gien. Voilà.
C'est à partir de octobre, parce que.
Oui, c'est ça.
Donc, tout vont se lancer. Donc, on sera d'ici là formés sur les réseaux sociaux. Donc,
voilà. Alors, on peut peut-être donner l'adresse, peut-être?
Oui, bien
voilà.
Sûr. C'est l'occasion à donner.
Donc, sur Instagram, ça sera donc Asso Art Danse Vie. Donc, Asso Art Danse Vie, tout attaché. Et sur Facebook, ça, c'est donc Association L'art de danser sa vie.
Les ateliers vont commencer à partir du mois d'octobre.
D'octobre, oui.
Mais nous serons normalement présentes sur le forum des associations en septembre.
Qui se déroulera en septembre.
Ah oui, à Gien.
On va peut-être d'ici là se revoir.
Oui, c'est ça, j'espère.
Forcément, on sera peut-être aussi présent au Studio 45 à cette journée des associations.
Super, on y sera.
Eh bien, c'est super, je vous remercie beaucoup. Et à nos auditeurs, n'hésitez pas à découvrir l'association d'Aïcha et d'Elena Prévost, l'art de danser sa vie.
Place à la musique dès à présent, notamment avec une voix familière de notre radio. Et oui, Joël Bourreux se prête au jeu de l'invité. Celui que vous retrouvez chaque deuxième vendredi de chaque mois va enfin se révéler au grand plaisir de chacun et nous parler de sa passion pour la musique, de sa troupe les pirates de l'air et les origines autour de sa chronique musicale. Avant son intervention, nous allons écouter tout d'abord une de ses œuvres musicales.
Salut, c'est Joël Bourreux. Vous êtes bien sur Studio 45.
Imaginez un vaisseau spatial si grand qu'on aurait du mal à en faire le tour à pied en vélo sur un poney. Imaginez un vaisseau volant où vivent beaucoup de gens, des grands, des petits, des noirs, des blancs, des gens vieux et des enfants. Ce vaisseau existe, poussière dans l'univers. Est-ce l'œuvre d'un artiste? Ce vaisseau, c'est... Ce vaisseau, c'est... Un vaisseau spécial, avec des chats et des chacals, des éléphants, des flamants roses. Un vaisseau sensationnel, avec des neiges éternelles et des choses d'été au soleil, des fleurs, du miel et des abeilles. Ce vaisseau existe, poussière dans. Avec des mers et des desserts, et des gâteaux d'anniversaire, et des bisous dans les chaumières. Ce vaisseau existe, poussière dans l'univers. Est-ce l'œuvre d'un artiste? Ce vaisseau seul, ce vaisseau seul. La terre, la terre, la terre, la terre, la terre.
Salut Joël.
Bonjour Romu, comment vas-tu?
Et toi, ça va bien?
Eh ben super, merci de m'inviter, c'est gentil.
Bah écoute, au plaisir, hein, surtout merci à toi d'être présent ici pour cette émission participative.
Avec plaisir.
On va du coup parler au niveau des artistes locaux.
Ah ouais, voilà, c'est un peu mon sujet.
Et aussi te présenter pour ceux qui te connaissent pas. Bah, j'espère qu'ils te connaissent parce que tu es présent sur notre radio avec ta chronique musicale.
Oui.
Donc on va tout d'abord voilà savoir qui tu es, donc si tu souhaites te présenter à nos auditeurs qui te découvrent et surtout ceux aussi qui ont l'habitude de t'entendre et sur Studio 45.
Bien sûr, oui, je vais me présenter, je pense que de toute façon je suis connu, il paraît que je suis connu comme le houblon d'ailleurs.
Ah oui, carrément, les chiffres ne disent pas le contraire.
Bon, c'est pas, il faut pas me mettre en bière quand même tout de suite.
Oh bah non, plus tard possible on va dire.
Bon, ouais. Alors, bah, écoute, c'est donc Studio 45, cette belle radio qui ne demande qu'à être écoutée par les Giennois et aux alentours. Bah, bravo, Romu, pour cette belle expérience.
Bah, écoute, il n'y a pas que moi. Il faut aussi te féliciter, mais aussi à tous ceux qui participent à cette aventure, notamment Michel, Graffiti Cinéma, et tous ceux qui valorisent ce beau programme de Studio 45.
Mmh, bah oui, bien sûr, ouais.
Alors, d'où est venue ta passion pour la musique, Joël?
Ah, alors oui, alors là, en fait, alors bon, moi, quand j'étais petit, j'ai pas eu de chance parce que mes parents écoutaient pas de musique. Ils étaient issus de la campagne.
D'accord.
Et les seules distractions qu'on avait, en fait, c'était d'aller voir les balles du 14 juillet. J'étais à Gien, j'habitais à Gien, très près de la place de la Victoire. Il y avait le bal du 14 juillet, on allait voir l'orchestre. C'était peut-être la seule sortie musicale que j'ai pu faire lorsque j'étais enfant. Cool. Et il y avait aussi des bals de noces. Alors là, je regardais, à l'époque, c'était l'accordéon, tout ça.
C'est quoi les bals de noces plus jeunes qui ne connaissent pas forcément.
Et bien, pour les mariages, à l'occasion des mariages.
Ah oui, les mariages.
Il n'y avait pas
des
DJ à l'époque, il y avait un accordéoniste et un batteur, parfois un guitariste.
Beaucoup de groupes, oui.
Voilà, et puis ils jouaient donc des airs populaires pour que les gens dansent. Et moi, chaque fois, j'écoutais l'orchestre, ça me plaisait. Et plus tard, bah après, en fait, on a eu la chance d'avoir un électrophone dans la maison familiale. Et puis là,
électrophone, pour ceux les plus jeunes qui ne connaissent pas, c'est l'ancêtre du tourne-disque.
C'est ça, c'est un tourne-disque, bêtement. Hein.
Oui, c'est sûr.
Un électrophone, ça s'appelait. Alors, on a acheté des disques. À l'époque, c'était Johnny, c'était les Beatles, c'était
donc les artistes de l'époque, les grandes vedettes. Oui.
Et bon, et moi, j'écoutais ça en boucle, bien sûr, jusqu'à ce que je vois. Alors, mon premier concert, vraiment, parce qu'avant c'était des balles en fait, hein, c'était que des balles. Mon premier concert, j'avais à peu près 11 ans, 10, 11 ans. C'est Reynald Allais que j'ai vu. Il était jeune à l'époque.
Et qui Reynald Allais?
Ah, Reynald Allais, c'est un auteur-compositeur de Bonny-sur-Loire, qui est excellent, qui écrit vraiment des textes formidables, et depuis toujours, et qui mériterait vraiment une belle notoriété. Et qui bon, là maintenant, il est âgé, mais il continue à tourner un petit peu. J'adore ce type, et c'est la première fois que j'ai entendu des chansons, parce que bon, quand on écoute de la musique et qu'on est gosse, bon, bah, on chante les paroles, mais on sait pas vraiment ce que ça veut dire. Et ce jour-là, j'ai découvert que les textes pouvaient être très intéressants. Ouais. Je me souviens d'une chanson qu'il chante toujours qui s'appelle « La chasse aux cons ».
La chasse aux cons, ah oui.
De Reynald Allais, d'ailleurs, que j'ai mis dans une de mes chroniques, hein, mais que tu pourras repasser éventuellement. Et il la chante toujours, parce qu'elle est toujours d'actualité, cette chanson.
Ouais.
Et curieusement...
J'imagine, c'est au contexte, on va dire, un peu au climat politique
exactement.
Actuellement, oui.
Exactement. Ah, bah, c'est les cons en général. Hein.
En général, oui.
Et je remercie Reynald, parce que c'est lui qui m'a donné le goût du texte. Après, je me suis mis à écouter Brassens, Brel, etc. Et puis plus tard, bah, j'ai rencontré des gens qui faisaient de la musique plus rock avec des guitares électriques, des batteries, etc. Mmh. Et là, allez, j'ai dit ça y est, je m'y mets.
Parce que ouais, la passion pour le rock, ça a été fait progressivement. Donc t'étais plus, passionné par la variété. Mais du coup, tu as fait aussi, t'as passé d'un cran sur la musique rock avec la découverte des années 60.
C'est plus la première fois que j'ai vu quelqu'un jouer de la guitare devant moi comme ça en proximité. En fait, c'était un copain de mon grand frère qui gratouillait la guitare.
Ouais.
Et un jour, il est venu avec une guitare électrique. Il a dit qu'il allait monter un groupe. Moi, j'avais 13-14 ans. Et je suis allé les voir répéter. Alors moi, ça me plaisait la batterie, la guitare et tout.
Ah, et c'est cet orchestre vraiment
rock, hein. Ils jouaient des trucs de Hair à l'époque. Enfin, c'est une comédie musicale Hair. Je sais pas si. Enfin, dedans, il y avait des gens comme Julien Clerc ou des choses comme ça. La comédie
oui,
musicale.
Julien Clerc, plus connu.
Et
après,
puis aussi Paranoid à l'époque. C'était des groupes comme ça, Triangle. Enfin. Et moi, ça me plaisait et je me suis mis à la guitare après. Et puis j'ai rencontré aussi. Évidemment, d'autres musiciens giennois qui étaient un petit peu plus âgés que moi. J'en ai fait une chronique musicale. D'ailleurs, je salue donc à ce sujet donc Pascal Jardon, qui est un guitariste qui a été professionnel, qui a joué dans un groupe qui s'appelait Mona Lisa, qui a fait plusieurs fois le tour de France et puis qui a joué même dans d'autres pays francophones et qui m'a aussi donné de bonnes bases guitaristiques. Je salue mon copain Jacques Fontaine aussi, qui est toujours un excellent batteur, qui est sur tour maintenant, et puis Patrice et Bruno Fusé, donc les deux frangins de Gien, qui m'ont donné vraiment le goût aussi qui m'ont vraiment fait progresser. Je jouais déjà, mais ils m'ont donné une espèce d'élan.
Une énergie pour continuer vraiment dans la musique, du coup.
Voilà. Donc, même s'il se passait pas grand-chose dans le Giennois, il y avait quand même...
Il y avait ce qu'il faut pour promouvoir les artistes, mais aussi valoriser ce territoire musicalement.
Voilà, exactement. Et il y avait d'ailleurs un magasin de musique à Gien, hein, c'était Jean-Claude Bouchard qui le tenait, avec Marthe Desarnaud, sa femme, d'accord, qui était la petite fille du docteur Desarnaud.
Desarnaud, oui.
Ça, voilà. Effectivement. Et donc Jean-Claude, eh bien, il avait un magasin de musique et il nous faisait écouter les derniers disques. On allait, il était disquaire et il vendait aussi. Bon, j'ai acheté ma première guitare chez lui, d'accord, mais il avait également des profs.
C'était quoi ta première guitare? Tu t'en souviens?
Oh là là, c'était une petite guitare
acoustique,
acoustique classique, montée nylon. Que j'avais acheté avec l'argent de ma première communion. Alors d'autres s'achetaient une carabine à plomb, moi j'achetais une guitare.
Une guitare, ouais, bon, chacun son truc. C'est venu où cette idée, ce concept de la chronique musicale que tu proposes actuellement?
Ah, la chronique musicale, oui. En fait, c'est Charles Copin qui animait Vox Radio avant.
Effectivement,
en fait.
Oui.
Mais bon, bah maintenant il est passé à autre chose, Charles. Et ça faisait plusieurs.
Qu'on salue, hein, notamment.
Salut Charles. donc ça fait plusieurs années qu'il me disait, oh, ça serait bien que tu fasses une chronique musicale. Il y avait aussi Michel Tissier, hein, donc qui faisait de l'histoire sur Vox Radio. Et il me disait, ah, ça serait bien que tu fasses une chronique musicale. On était en plein Covid, j'avais pas trop de moral, etc.
La période où tout le monde était enfermé, donc avec.
Ouais, et puis. Bon, j'étais pas prêt à le faire. Bon, je me sentais pas prêt. Et puis un jour, à force de me dire il faut que tu fasses quelque chose, et ben j'ai dit écoute, on en fait une pour essayer. Et puis je me suis pris au jeu, j'en ai fait une douzaine. Et d'ailleurs, ce sont ces chroniques que je remixe un petit peu, je remets au goût du jour et que je remets sur Studio 24. J'en ai encore quelques...
45.
Studio 45. Ah oui, Studio 24. Pour moi, c'est 24 heures sur 24. Studio 45.
Oui, c'est vrai, on est diffusé 24 heures sur 24.
24 en Dordogne, excusez-moi.
On est un peu plus loin, un peu plus au nord. Voilà, pour donc... ceux de la Dordogne qui nous découvrent.
Je rediffuse donc ces chroniques-là. Et puis, j'en ai fait une nouvelle là, sur Marc Longchamp, qui est un guitariste extraordinaire de jazz. Hein.
Qui est sur il y a eu une émission spéciale là récemment a été diffusée
pour la sortie de son dernier disque,
très intéressante, hein. N'hésitez pas à le réécouter, il est disponible sur la rubrique podcast de Studio 45.
Voilà, salut Marc Longchamp si tu écoutes, et son spectacle, son concert était vraiment fantastique à Montargis, vraiment c'est quelqu'un qui mériterait vraiment de tourner. Et bon, c'est curieux, comme souvent les artistes professionnels d'un gros niveau, ils ont pas de demande, quoi.
Bah oui. Mais pourquoi cet intérêt, en fait, le problème c'est quoi? On n'a pas autant cet intérêt pour les artistes locaux dans notre département. Ce que je parle, c'est vrai que forcément, au plus près, il y a des artistes de qualité, des artistes qui proposent vraiment des prestations sympathiques. Comme tu me parles de Marc Longchamp, je vois aussi avec ton groupe Les Pirates de l'Heure, qu'on reviendra juste après, hein, pour présenter aussi. Oui. et pourquoi il n'y a pas cet intérêt de demande en rapport aux artistes?
Ça, il faudrait poser la question à ceux qui décident, hein, de la programmation, parce que en fait, c'est général. Hein, on dit nul n'est prophète en son pays, et c'est vrai. Moi, je vois des gens de Cône-sur-Loire qui disent nous on ne joue jamais à Garçon la Note à Cône-sur-Loire, on n'est jamais appelé. Et à Gien, c'est vrai que bon, là on a joué pour la fête de la musique à Gien, mais et puis l'année dernière on a pu jouer aussi pour le 14 juillet, mais parce que c'était la fête de la musique qui avait été annulée et qu'on avait reportée, voilà. Mais sinon ça faisait 9 ans qu'on n'avait pas joué pour Gien, en fait. Bon, on est à Saint-Brisson, bon, on n'est pas de Gien non plus, voilà, mais c'est
non,
vrai,
mais
on
ça
sait
fait
pas.
Partie du territoire, on va dire.
On ne sait pas pourquoi, faudrait un jour nous dire pourquoi. C'est dommage parce qu'il y a des forces, vraiment il y a de la force dans la culture, les gens qui font des choses dans le coin, que ce soit en musique ou d'autres, hein,
artistique, hein, forcément, il y a même des associations
dans tout domaine artistique,
même des artistes, des intermittents qui méritent d'avoir aussi un peu plus cette valorisation.
Intermittent ou pas, artiste, hein,
oui,
ça peut être des expositions de tableaux, ça peut être plein de choses, c'est des forces vives qui existent et qui demanderaient que ça. Après, effectivement, il y a des gens qui en vivent, hein. Moi j'en vis, hein, ça fait très longtemps que j'en vis, mais c'est vrai qu'on est tout le temps sur la route, on fait 1000 km pour faire un cachet, quoi.
Ouais, comme quoi des fois.
Mais bon, voilà, mais on revient dans le coin parce que là on a
remercier aussi les fans des premières heures qui vraiment locales.
Non, mais je voulais saluer la communauté de communes Berry-Loire-Puisaye, c'est-à-dire Châtillon, Briard, etc. qui nous ont repérés, et puis on fait 10 spectacles sur leur Comcom grâce à eux cette année.
Oui, c'est vrai. Bah on va en parler du groupe Les Pirates de l'Air. Déjà, où est venue la création de ce groupe? Qu'est-ce que ça représente du coup pour toi? Qu'est-ce que vous réalisez? Je vois que il y a beaucoup de, c'est très varié.
Oui.
Ça part au chant, au spectacle vivant. Vous mélangez humour, chant, magie aussi.
C'est ça, oui.
Du coup, d'où est venue l'idée de ce groupe?
Bon, alors déjà, Pirates de l'air, le nom a été donné parce que notre premier spectacle, c'était un spectacle à base de chansons et d'air détournés, donc des parodies, imitations,
chansons,
parodies,
oui.
Un peu la façon de des humoristes comme Laurent Gérard, Thierry Leluron, bon, plus vieux, hein, bon, en référence, ou alors Chanson plus Bifluoré, qui est un groupe aussi que j'adore, qui fait de la chanson détournée,
ouais.
Mais c'est très bien fait, hein, y a de jolies voix, c'est bien orchestré, c'est joué en direct, hein, c'est pas des bandes d'orchestre. Alors nous, on s'est dit, tiens, on adore ça. On va pirater des airs et des chansons, donc ça s'est appelé Pirates de l'air.
Pirates de l'air.
Voilà. Alors à l'époque, quand on a démarré, on avait parodié pas mal de chansons des Black Eyed Peas, du Christophe Maé, du.
Tout le monde y passe en fait.
Tout le monde y passe. Le groupe Téléphone, le groupe Louis Attaque avec un coup de violon faux. Voilà. Alors ça, c'est pour ça qu'on a appelé ça Pirates de l'air. Et petit à petit, on a évolué, on a écrit, moi j'écris beaucoup de chansons, hein, j'en ai peut-être une 60aine maintenant à la SACEN, des chansons. Alors on a évolué, on a monté d'autres spectacles, et puis on a imaginé aussi une sorte de musical où il y aurait de la magie, il y aurait de la comédie. Et c'est un domaine où on n'a pas de concurrence, parce qu'il n'y a que
oui.
nous qui à deux.
Il n'y a que vous qui proposez dans ce coin.
Voilà, on était deux au départ, hein, Kevin et moi. On a un plateau à deux en fait, hein. On est à la fois présentateur, magicien, humoriste, musicien, chanteur, ventriloque.
Ah, ventriloque.
Oui, ventriloquie aussi.
Ah oui, quand même.
Avec un numéro. Alors bon, c'est un numéro, c'est une chanson, enfin un numéro que j'ai inventé. Ça s'appelle Bluff en fait, et je prends deux marionnettes qui sont deux personnes du public, et je leur fais faire un scat de jazz malgré eux, donc c'est bon, c'est moi qui chante en ventriloquie, mais eux ouvrent la bouche lorsque je leur presse la main, enfin c'est tout un concept.
Yes.
Voilà, donc c'est bon, c'est des inventions qu'on propose.
Ouais, c'est quand même original, hein. Forcément, c'est très intéressant. Bah, vous faites en plus très souvent ces prestations en Briard, à l'auditorium.
Alors,
du centre socio-culturel.
À l'auditorium, récemment,
oui.
On a eu vraiment le plaisir de remonter un nouveau spectacle de chansons uniquement, que des chansons que j'ai composées.
T'as composé, oui.
Qu'on a appelé Époque épique, et c'est sur notre drôle d'époque. Et donc, on nous a offert, là, cette fois-ci, une résidence. C'est-à-dire qu'on a pu avoir un metteur en scène, avoir un beau plateau, avoir d'excellentes conditions.
Metteur en scène, Ronan.
Ronan Chambaud, salut
Chambaud,
Ronan.
Oui. Qu'on le salue, parce qu'il est passé aussi sur Studio 45.
Voilà, un boulot extraordinaire. C'est un mec extraordinaire. Il a pris notre spectacle tel qu'on l'avait conçu, et il a vu immédiatement ce qu'il fallait mettre en valeur, ce qu'il ne fallait pas faire, etc. Il nous a vraiment fait
Il a vraiment cadré le côté artistique, forcément.
Oui, et puis
son expérience théâtrale aussi.
C'est une sorte de comédie musicale, donc il y a un petit
oui, c'est sûr.
Une scénette entre chaque chanson. Et la scénette, on n'est pas des gens de théâtre. Enfin, on a l'habitude de la scène, mais c'est vrai que parfois.
Mais c'est pas vraiment dans le théâtre pur.
Voilà. Mmh. Et là, le Ronan, il nous a mis sur les rails de ouf. Voilà.
Ah
et
bah,
on l'a fait donc là. Hein, bon, on travaille de plus en plus en trio. Là, on l'a fait avec William Palis, qui est un musicien professionnel d'Olivet, qui est un mec super sympa et très efficace. Voilà, donc avec William remplace Lorraine, parce que Lorraine, elle est de Tours, ça fait un peu loin, mais elle n'est pas toujours présente, hein, c'est une grande musicienne aussi. Salut Lorraine, je te salue si t'écoutes. Lorraine, elle joue tous les instruments. Et,
d'accord.
Voilà, elle a d'ailleurs une chaîne YouTube, allez la voir, parce que c'est fantastique. Ça s'appelle L-O-L-A-U apostrophe. Plus loin, musique avec un M majuscule,
donc oui.
M-U-S-I-C.
Notez pour ceux qui souhaitent découvrir Lorraine.
Voilà, sur YouTube, et vous allez voir, elle joue tous les instruments, c'est incroyable. Et donc, on adore jouer avec elle, elle est vraiment très efficace, et d'ailleurs, on a joué à la fête de la musique avec elle, la dernière fête de la musique. Voilà. Et puis là, en juin, on a fait 6 ou 7 concerts avec elle.
Ah oui, t'es non-stop du coup sur le terrain, forcément, comme on dit sur le terrain, mais en spectacle,
été,
oui.
Là. On va faire un festival pour enfants, parce que parmi nos spectacles, donc on a, j'en parlais, Époque épique, donc avec Lorraine, ça s'appelle Joke Trio, Mais on a aussi une comédie musicale qui s'appelle Les Papy Rockers. En général, on fait Jog Trio et Les Papy Rockers.
Les Papy Rockers en même temps? D'accord.
Voilà, en deux parties. Et puis Pirates de l'air, donc c'est plutôt là pour le duo
avec Kevin.
Mais quand on nous demande en trio de faire des morceaux de Pirates de l'air, on peut le faire aussi. Et puis on a un spectacle pour enfants. Alors là, on en est super fiers. Ça s'appelle On va sauver la planète. Et c'est un spectacle qu'on a écrit il y a 14 ans.
Ah oui, carrément. Et ça parle de quoi, sauver la planète?
Les thèmes, ce sont uniquement des thèmes sur l'écologie, le recyclage, etc. Par exemple, il y a une grand-mère qui vient expliquer, une grand-mère un peu sorcière quand même, qui vient du Berry, qui vient expliquer qu'il faut pas jeter ses casseroles, ses poêles à frire, ses sonnettes de vélo, parce qu'avec, on peut faire un instrument de musique, avec les boîtes de concert, etc. Donc la grand-mère sort ce drôle d'instrument avec des poêles à frire, des gamelles, des klaxons. Et il y a une chanson qui s'appelle « La planche à laver de ma grand-mère » que je t'ai envoyée d'ailleurs.
Oui.
La planche à laver de ma grand-mère.
Je l'ai dans les dossiers.
Voilà. Donc si
je la ferai diffuser.
si tu la diffuses,
très prochainement.
on entendra la grand-mère qui fait un solo de casseroles et de boîtes à conserve. Alors ça, c'est pour le recyclage. Il y a aussi un loup vegan qui vient expliquer façon rap aux enfants qu'il faut pas manger les animaux parce qu'ils sont trop gentils. Il est vegan, le loup. Voilà.
Ah oui,
il y a aussi évidemment une chanson là qu'on joue partout maintenant parce que on nous a dit jouer là partout cette chanson. On l'avait écrite pour ce spectacle. C'est le vaisseau spatial. Alors on explique aux enfants que tout dans l'univers, dans le ciel, tout est rond. Le soleil, la lune, les planètes et la Terre aussi. Alors pourquoi ce ne serait pas des vaisseaux spatiaux? Et certains sont habités, par exemple le nôtre, il y a des voyageurs sur cette boule qui se promène dans l'univers.
C'est vrai.
C'est un vaisseau spatial avec des voyageurs. Mmh. Et les voyageurs, c'est nous, mais aussi les animaux, les arbres, etc. Donc on a écrit cette chanson, je l'écris, le vaisseau spatial, mais on la joue à quatre mains sur une seule guitare avec Kevin. Donc on échange la guitare de main en main pendant qu'on dit le texte sur la Terre. Donc ça permet d'avoir l'attention des enfants qui regardent le visuel et en même temps écoutent et comprennent
écoutent en même temps
très bien les
l'histoire,
paroles.
Oui. Voilà.
Et à la fin, ils reprennent le refrain avec nous. C'est super. On adore.
Ils sont très captifs, les enfants. Hein. Franchement, si on leur explique des histoires vraiment fantaisistes, ils sont très...
Tout à fait. Et puis les enfants, à chaque fois, on est vraiment dans des conditions extraordinaires. On a un public qui est très à l'écoute.
Oh oui, c'est vrai.
Qui mange pas de la tête de veau pendant qu'on... ou qui boit pas de la bière ou qui nous demande pas un Johnny Hallyday pendant qu'on est en train de travailler. Non, ils sont à l'écoute, on leur offre nous ce qu'on a à leur offrir. Et puis bon, c'est fantastique parce que c'est un public. Si ça leur plaît pas, alors là c'est pas la peine, hein, ça
c'est
marche
vrai,
pas.
C'est vrai.
Mais alors nous on est
ils sont très bons publics.
On est chouchoutés.
Je me souviens quand il y avait des spectacles d'école, des fois on était très intéressés parce que ça nous fait notre petite sortie aussi. Donc c'est vrai que les enfants, dès qu'il y a une animation qui se met en place, ils sont toujours joyeux à l'idée de découvrir.
Voilà.
Et ce sont de très grands aussi,
C'est des buvards, hein.
Ouais,
ils aspirent tout ce qu'ils voient. Puis en plus, nous, comme tous les spectacles, on mélange tout, hein. C'est un music hall pour enfants de tous âges.
C'est vrai.
Voilà. On démarre par une chanson, qui parle, ça parle de l'arche de Noé, en fait. Hein. Noé avec son bateau, il a emmené les animaux, etc. Bon, il y a un refrain à reprendre. Ensuite, il y a un tour de magie. Ensuite, il y a le loup vegan. Ensuite, il y a un numéro
Le loup vegan. Ouais, très beaucoup, c'est pas commun quand même.
on fabrique des planètes ensuite. Alors avec des bulles de savon, avec des objets en lévitation, etc.
Ouais.
Et ensuite, on chante la chanson à 80 sur la Terre. Et on rejoint la première chanson sur l'Arche de Noé. En fait, la Terre, c'est notre Arche de Noé. On leur fait comprendre. Et ils comprennent très très bien le sujet.
Concept,
hein.
Oui, oui. Je voulais te parler aussi, avant d'en finir, je voulais savoir quel conseil porterais-tu pour des artistes, des jeunes artistes qui souhaitent se lancer dans la musique, que ça soit des jeunes du coin, mais aussi des personnes qui t'entendent, qui souhaitent se lancer artistiquement. Quel conseil pourrais-tu porter
pour se produire ou pour progresser?
Se produire, se progresser dans toutes les étapes qu'ils peuvent faire, valoriser dans leurs activités.
La musique, j'ai animé aussi des ateliers musicaux en maison de jeunes longtemps. Et ce que j'ai privilégié, c'est la musicalité de chacun. C'est-à-dire qu'en fait, il faut travailler Pour moi, il faut d'abord travailler sa musicalité et tout le temps, toute sa vie. C'est-à-dire qu'il faut écouter beaucoup de musique. Si on a des problèmes rythmiques, il faut taper sur la table avec ses doigts ou sur le volant ou en classe ou n'importe où.
Ça permet en fait de trouver vraiment sa conscience musicale aussi.
Oui, exactement. Hein. Et si on a des problèmes d'oreille, bah, il faut chanter en même temps que ses titres préférés. Et il faut en fait améliorer, on peut améliorer toujours sa musicalité. Et lorsqu'on a une musicalité en soi, elle va ressortir naturellement sur n'importe quel instrument, que ce soit la guitare, le piano, le violon,
même le chant, quand on chante. Oui.
Le chant, c'est un instrument de musique, on transfère immédiatement ce qu'on a dans la tête avec sa voix en fait. Hein.
C'est vrai.
Voilà.
C'est vrai.
Donc ça, c'est pour moi, c'est la première chose. Si on veut commencer un instrument de musique, la première chose, c'est de pouvoir chanter juste et en rythme.
Exactement, effectivement. C'est la première,
voilà. Alors que
aussi au juste ton.
Alors que les méthodes traditionnelles, classiques, etc., on lit des notes. Mais c'est pour moi, c'est comme si on faisait lire du chinois en phonétique à quelqu'un qui connaît pas le chinois. Alors il va lire une phrase sans savoir ce qu'elle veut dire. Donc pour moi, c'est de la musicalité. Même si en classique, après, on aborde plus tard ce sujet-là, beaucoup plus tard, on va faire des dictées musicales ou on va être de l'écoute, etc. Mais moi, je pense qu'il faut prendre le problème quand on veut aller vite et puis se faire plaisir, avoir absolument une musicalité en soi. Ça, c'est la première chose. Après, quand on prend un instrument. Pour moi, il y a 10 ans d'études. Hein. Moi, j'ai fait 8 ans d'études et je me suis lancé avec mon premier groupe semi-pro au bout de 8 ans. Mais c'était trop tôt. J'étais encore. Moi, je pense qu'il faut 10 ans.
Pour vraiment être dans la perfection.
Posséder un instrument.
Pour avoir la touche experte, si on peut dire.
Alors, je dis pas qu'au bout de 2-3 ans, on peut déjà bien se débrouiller, mais on apprend par cœur. Pour vraiment dialoguer, avoir comme un prolongement de soi, hein. Il faut avoir, pour moi, il y a 10 ans de travail. Et après, j'ai constaté qu'il y avait encore 10 ans de scène pour vraiment être à l'aise sur scène.
Vraiment à l'aise, oui.
Ouais, dans mon cas, ça a mis 20 ans.
10 ans pour la musique, 10 ans pour la scène. Donc
mais bon, ça se fait parce que devant moi, il y avait d'autres gens. Hein. J'ai travaillé avec, notamment avec dans les Roll Mops avant, hein, qui était un peu un concept un peu similaire au Pirates de l'air, mais plus musical.
D'accord.
J'avais la chance d'avoir devant, on avait un type extraordinaire qui s'appelle Roland Salomon et qu'on appelait Roll Mops. Et le groupe s'appelait les Roll Mops. On était en trio. Hein. Et ce type Roll Mops, c'est une bête de scène. Donc il était devant. Moi, j'étais un peu derrière, mais j'apprenais. Et puis avant lui, j'ai travaillé avec Jean Mozac. Pareil, qui tenait la scène. Alors je l'accompagnais. Moi, j'étais juste accompagnateur, mais j'apprenais énormément à son contact.
Jean Mozac, ça me dit quelque chose. C'est qui pour
Jean Mozac? Alors c'est un auteur-compositeur qui était Paris. Enfin, on va dire rapidement, il était sur Paris. Il est arrivé dans les années 75 peut-être à Cernoux-en-Berry.
À Cernoux-en-Berry.
Voilà. Et donc il a fait la connaissance de différents musiciens, dont ceux que je parlais tout à l'heure.
D'accord.
Pascal Jardon, Jacques Fontaine, Gilles Boutmy aussi, Mabout, si tu écoutes l'émission, je te salue. Gilles Boutmy de Cernon. Il a fait son premier disque dans les années, je sais pas, peut-être 76, quelque chose comme ça, avec ces musiciens-là. C'était pas son premier disque, son premier 33 tours. Parce qu'avant, il avait fait pas mal de 45 tours. Il était bien apprécié d'ailleurs dans les cabarets parisiens. Hein. Il avait une bonne notoriété. Et puis, ensuite, il est resté ici. Et puis, il est parti. Jean, je te salue. Tu nous regardes peut-être. T'es là-haut. Et il est parti pendant qu'on faisait tous la fête un 31 décembre 2006, je crois. 2006, c'est ça. Et moi, je l'ai accompagné 6 ans, en fait, hein, dans ma carrière.
Ah oui, quand même.
Voilà. Et donc, j'ai beaucoup appris avec lui aussi parce qu'il savait manier le verbe. Il savait écrire des textes. Et puis, il avait un aura sur scène. Il savait tenir.
Il avait cette aisance et aussi ce sens des mots.
Voilà. Propre. Donc, ces 6 ans passés avec lui ont fait partie de mon apprentissage.
Ça t'a appris, oui, c'est vrai que... avec un grand artiste comme Mozac.
Qu'on écoutera sur Studio 45, évidemment. Oui. Tous ces titres hein.
Avec grand plaisir, surtout dans ta chronique hein, notamment hein.
Oui, on pourra faire une chronique sur Jean Mozac
dans l'occasion c'est le but, on va faire ça, une spéciale Jean Mozac très prochainement sur Studio 45.
Très bonne idée.
Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup déjà, Joël, d'avoir pu faire cette intervention et déjà te présenter, mais aussi par honneur aussi de valoriser les artistes de notre belle région quand même, parce que qui sont très peu mis à l'honneur.
C'est ce que tu es en train de faire, Romuald. C'est tu es en train de les valoriser.
On est une station qui est ouverte à tous et forcément, si vous souhaitez participer aussi à cette vie de Studio 45, c'est l'occasion de nous envoyer vos belles maquettes et forcément. Il y a toujours de la place dans notre flux musical et aussi avec Joël Bourreux dans sa chronique musicale. Et on a même un répertoire dédié en plus aux artistes maintenant, tu sais.
Oui.
Tu l'as vu,
j'ai
du
vu,
coup
oui.
Et c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à tous les artistes, que ça soit d'ici, du Loiret, mais aussi de tous les alentours. C'est ouvert à tous. Donc n'hésitez pas.
Génial. J'espère qu'il y aura beaucoup de rendez-vous ensemble entre artistes et chroniqueurs de Studio 45.
Hors des chroniques, ça va être quoi tes prochains projets?
Mes prochains projets hors des chroniques?
Oui.
Alors là, cet été c'est calme, donc ça va être des vacances.
Des vacances?
Voilà. Ou alors des choses au dernier moment. Voilà, c'est possible. Il y aura peut-être des choses au dernier moment. Après, en septembre, on redémarre le 8 septembre justement à Cernoy-en-Berry.
D'accord.
Là où il y avait Jean Mozac, où Jean Mozac habitait. Oui. Invité par la communauté de communes Berry-Loire-Puisaye, on va jouer le 8 septembre, dimanche 8
septembre.
8
septembre. D'accord. Ouais. Donc à noter, si vous souhaitez.
Voilà. Alors, je me souviens plus, c'est l'espace Jean Coffier, je crois, Jean Coffier. Ouais. L'espace Jean Coffier, c'est à l'ancien camping, apparemment, tout au bord de la rivière qui traverse à Cernoy et qui s'appelle, ça y est, j'ai oublié, j'allais dire.
On va retrouver ça bientôt, très bientôt.
Non, mais enfin, voilà, le Cosson, je crois que c'est le Cosson.
D'accord, le Cosson.
Hein, qui passe là. Voilà, donc, ça, à la sortie ou à l'entrée du village, selon le sens dans lequel on arrive. Et ce sera à 16h.
À 16h, du coup?
Ouais. Et je pense que ça va être très sympa. Il y aura à boire, à manger. C'est gratuit.
Et en plus, c'est gratuit, oui.
Voilà. C'est gratuit. Mais alors, c'est pas parce que c'est gratuit qu'il faut pas venir, parce que c'est...
Non, c'est l'occasion, hein. N'hésitez pas. C'est ouvert à tous. La culture est surtout valorisée aussi. Et voilà. C'est surtout l'occasion de voir Joël à ses grands événements et à ses grandes prestations.
Ah, c'est gentil.
Le Joël des grands soirs, comme on dit.
Et Kevin. Hein,
et Kevin aussi, oui, j'ai totalement oublié le pauvre.
Ah bah, Kevin.
On
Kevin,
le salue aussi. Hein.
Alors, je disais qu'il faut 10 ans d'études, mais lui, il est né pour ça.
Et là, lui, est musical déjà.
Il est... il faut venir le voir pour le croire, parce que, j'espère qu'il écoute pas l'émission, parce que sinon, il va me mettre des baffes, mais c'est un extraterrestre.
Je suis pour rien, Kevin. Bien, Joël, merci beaucoup en tout cas
merci
de ton
toi,
intervention. Romain. Tu mérites ces vacances bien méritées, parce que c'est vrai qu'on va être aussi en pause sur Studio 45 en mois d'août.
Voilà,
on reprendra dès septembre.
En plus, le beau temps va arriver.
Oui, le beau temps va arriver et aussi ça va être une grande période de structuration pour notre radio, parce que on va avoir des surprises pour l'année prochaine.
Eh ben super.
À bientôt, Joël.
À bientôt, salut.
Ciao.
Nous terminons cette émission participative avec l'entretien de l'auteur littéraire Julien Rochard, qui était présent ce jour-là pour une séance de dédicace à la Guinguette Génoise. Il a accepté de répondre à nos questions, parlant pour sa passion héréditaire de l'écriture. Ses histoires se basent sur du polar populaire, psychologique et thriller, inspiré par l'univers de Stephen King. Son premier roman, Once Upon a Crime, est sorti l'année dernière et deux autres projets sont sortis à la suite depuis, dont Crystal Park et son tout dernier Six.
Nous sommes actuellement avec Julien Rochard, auteur littéraire qui est présent avec nous. Bonjour Julien.
Bonjour Romuald.
Peux-tu nous présenter à nos auditeurs qui te découvrent?
Tout à fait. Alors moi, pour la petite histoire, déjà j'étais en fait professeur d'anglais et d'allemand, donc en collège et lycée, pendant une dizaine d'années en tant que professeur contractuel. Et puis depuis 2017, je suis donc formateur pour adultes. Et récemment, donc il y a 2 ans de ça, je me suis lancé dans l'écriture, voilà, de romans policiers et plus essentiellement dans les thrillers psychologiques, voilà, pour les connaisseurs. Donc c'est une aventure littéraire qui est tout à fait récente. Hein. Moi, j'ai commencé en 2022, voilà.
D'accord.
Et puis je vais te laisser après poser des questions et puis.
Ouais, j'ai beaucoup à poser.
Je te laisse.
D'où est venue ta passion déjà pour la littérature?
Alors ma passion, elle a commencé déjà très jeune, parce que moi j'avais des parents qui étaient très littéraires, et du coup je pense qu'ils m'ont un petit peu donné ce virus-là de la littérature.
De la littérature, ouais.
Voilà. Et Et voilà, et du coup, j'avais toujours ça en moi. Et je m'étais toujours dit, en fait, avant mes 40 ans, je voulais écrire un roman. Et je vais avoir 40 ans au mois d'août. Et je suis en train de terminer mon quatrième roman. Donc, je suis assez satisfait. Donc, voilà. Et donc, pour moi, mon rêve, il est déjà réalisé. Voilà. Après, tout le reste, maintenant, pour moi, ça va être du bonus, en fait.
Et pourquoi le style thriller psychologique et policier t'intéresse plus ?
Alors, c'est parce que j'en ai lu beaucoup déjà. Voilà, c'est un style particulier.
Stephen King en particulier.
Ouais, alors
il y a une de tes plus grandes aspirations.
Ouais, effectivement, il y a Stephen King. Après, des auteurs étrangers aussi, des auteurs allemands, etc.
C'est plus populaire, on va dire.
Voilà, c'est ça. Mais après, il y a de très bons auteurs aussi étrangers. Et comme je lisais aussi beaucoup des romans en langue étrangère, ça m'est venu comme ça. Donc, du coup, c'est un style que j'ai développé. Et puis, alors pourquoi le roman policier forcément ? C'est parce que, puis notamment le thriller, parce que je voulais montrer aussi que l'âme humaine peut être très très sombre, mais dans ce côté sombre aussi, dans cette obscurité, il y a toujours de la lumière. Et donc j'aime bien essayer de mettre un petit peu ces deux éléments. Voilà, exactement, c'est ça. Mais c'est vrai que mes romans sont d'une ambiance très très sombre et c'est généralement pour un public quand même averti. Voilà. C'est pas de la romance jeunesse par exemple pour des ados,
Sûr.
C'est plus pour adultes, voilà, on va dire.
Et on va se pencher du coup sur tes œuvres, on va présenter tes 4 livres. Je me suis déjà bien informé.
D'accord, très bien.
Once Upon a Crime, de quoi résume cette histoire ?
Alors, Once Upon a Crime, c'est. Alors, le titre est en anglais, mais le livre est en français, déjà.
Je tiens à le préciser.
Il sera peut-être traduit en anglais plus tard, mais pour l'instant, on reste sur la version française. Voilà. Déjà, on note le jeu de mots, hein, Once Upon a Time et Once Upon a Crime. Alors, Once Upon a Crime, c'est un conteur, c'est un tueur en série qui se fait appeler le conteur et qui va en fait tuer ses victimes en s'inspirant des contes pour enfants. Donc, je revisite totalement les contes pour enfants, mais sur la version originelle, la version très, très, très sombre en fait.
On a parlé d'histoire d'enfant, là c'est un peu dans le thème. Là.
Voilà, c'est ça. Donc il y a Jack Walsh qui est un policier qui est à la retraite et qui va en fait être amené malgré lui à se relancer dans cette enquête.
D'accord.
Et à essayer de poursuivre ce conteur qui est complètement cinglé, faut le dire. Voilà. Donc un roman très très sombre, très rythmé et une fin totalement étonnante, je peux pas en parler. Voilà, faudra le lire pour ça.
Oh oui, bon, on va retrouver ça très bientôt à ce livre-là.
C'est ça.
On va parler du coup de Crystal Park,
ouais.
Le deuxième.
Alors Crystal Park, c'est la, pour la petite histoire, c'est la vraie fête foraine de Clermont-Ferrand. Voilà.
D'accord.
Dans laquelle je suis jamais allé.
Mais je connais bien Clermont-Ferrand, j'y ai jamais été.
C'est vrai, oui, c'est vrai. Je te jure. Là, tu pourras y aller maintenant à Crystal Park.
J'irai l'occasion quand il y aura la fête foraine.
Et voilà. Donc je crois que c'est en mars de mémoire et je me suis énormément renseigné sur cette fête foraine. Alors pourquoi le titre Crystal Park ? Parce que je voulais créer un roman justement dans une fête foraine et en cherchant sur internet, je suis tombé sur sur ce nom-là et je trouvais que ça sonnait pas mal. Donc du coup, j'ai piqué le nom et donc je me suis renseigné un petit peu sur la fête foraine. Donc Crystal Park, c'est une petite fille qui s'appelle Charlie et qui a 6 ans et qui en fait qui va disparaître dans cette fête foraine. Donc on est au début dans une ambiance très très joviale, très joyeuse, et finalement le côté sombre va apparaître parce que la petite fille va disparaître. Et en même temps, il y a une femme qui va être retrouvée assassinée morte dans la grande roue.
D'accord.
Et donc Camille Bréant, qui est une lieutenante, va essayer de faire un petit peu elle va essayer de lever le voile sur cette histoire et elle va penser que les deux affaires sont liées.
Disparition, oui.
Voilà. C'est un roman qui est plus psychologique. On va passer par la tristesse, la colère, etc. Donc quand même assez différent de Once Upon a Crime qui lui est plus c'est une chasse à l'homme quoi, donc c'est un peu différent, voilà.
Oui, c'est plus crime policier à peu près.
Voilà, c'est ça exactement.
Et on va parler du troisième, oui. Six.
Alors si, c'est le tout dernier.
C'est le tout dernier du coup.
C'est le tout dernier. Pour moi, c'est le plus abouti en termes d'écriture, plus riche en personnages. Alors si, ce sont des policiers qui vont être retrouvés émasculés et égorgés. Donc vous voyez, donc c'est pas très, c'est pas dommage, c'est super. Donc c'est pas très gay non plus.
Oui,
c'est et ça. Sur le torse, on va retrouver en fait une inscription en latin. Alia jacta est, donc le sort en est jeté. Et sur la première victime, on va retrouver un dé avec un seul point. Et donc le titre s'appelle 6. Voilà. Et ça
c'est
se déroule
en référence au dé.
Exactement.
D'accord.
C'est ça. Et donc ça se déroule à Lyon. Alors le premier se déroule à Paris, le deuxième à Clermont-Ferrand et celui-ci se déroule à Lyon.
On reste dans la localité. Quoi.
On reste dans la localité. Alors Lyon, pareil, je suis pas un expert sur la ville de Lyon, mais je me suis renseigné énormément, voilà. Et donc du coup, j'essaie de mettre des lieux, de recréer vraiment l'ambiance lyonnaise. Donc pour ceux qui connaissent bien Lyon, la cité des Gaunes, voilà, pour ceux qui connaissent, du coup pourront se reconnaître là-dedans et voilà. Si donc c'est un roman très très noir aussi, ouais. C'est un roman très très sombre.
C'est thriller psychologique.
Ouais. Alors il y a une grosse part de psychologie, mais il y a une grosse part aussi quand même de d'atmosphère très très sombre et voilà. C'est vraiment.
Ouais. Ça se penche plus dans l'horreur du coup. Pas forcément.
Non, mais c'est quand même. Il se rapprocherait quand même plus de Once Upon a Crime, on va dire, en termes de.
En termes d'histoire.
Ouais, en termes d'histoire, voilà. Mais pour moi, c'est le plus abouti.
Et t'es sur, du coup, sur un dernier œuvre aussi, actuellement. Oui. C'est l'œuvre de Phobos.
L'œil de Phobos. Donc, Phobos, hein, pour, donc, c'est le dieu de la peur dans la mythologie grecque. Et donc, du coup, ce roman va traiter des phobies. Alors, ça va se passer en Nouvelle-Calédonie. Parce que mon frère habite en Nouvelle-Calédonie.
D'accord.
Où malheureusement en ce moment bah ouais, c'est pas la joie.
Ah bah oui, c'est sûr.
C'est vraiment la situation est vraiment
très tendue,
catastrophique.
Oui.
Lui il est sur place là-bas, donc il connaît très très bien et il va peut-être même être amené à revenir. Donc bon. Donc j'ai choisi la Nouvelle-Calédonie et malheureusement ça se passe pas très bien, mais c'est comme ça, voilà. Mais ce sera peut-être aussi l'occasion au lecteur de découvrir justement cet archipel qui est incroyable. Et donc pareil, énormément de recherches, voilà. Et des infos que mon frère m'envoie, parce que moi je suis pas encore allé là-bas.
T'as pas été du coup.
Et je devais y aller, et c'est un peu compromis pour le coup.
Là on va dire c'est pas la bonne période.
C'est pas la bonne période. Donc je voyage à travers mes lectures, à travers mes recherches, et c'est ça qui est formidable. Et donc l'œil de Phobos, c'est sur les phobies. Donc c'est une femme qui va être retrouvée en fait le visage complètement figé, cristallisé par l'effroi, par la peur, et la moelle épinière sectionnée. Donc on reste encore dans quelque chose de très 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 sombre. Et l'œil de Phobos, en fait, on repart avec Camille Bréant, qui est l'héroïne de Crystal Park. J'ai voulu repartir sur ce personnage-là parce que les retours que j'ai eu sur Crystal Park, c'est voilà, on m'a dit, on aimerait, certains lecteurs et lectrices m'ont dit, on aimerait que Camille Bréant reprenne un petit peu une enquête. Donc je m'étais dit, je vais repartir avec ce personnage-là qui a bien fonctionné. Et là, j'en suis à mon 18e chapitre, donc je suis quasiment sur la fin. Ouais, pourquoi pas?
Et sur quel point de vente sont-ils disponibles?
Alors, ils sont sur plusieurs plateformes, les plus connues. Alors déjà, il est déjà sur LibriNova, déjà, parce que je passe par LibriNova. Alors déjà, pour la petite histoire, c'est que moi, je suis auto-édité. Donc, je n'ai pas de maison d'édition, je suis auto-édité. Donc, je fais ma promotion, etc. Et donc, je passe par une plateforme qui s'appelle LibriNova, qui me permet d'imprimer mes romans et en plus d'acheter des services pour être diffusés en format numérique et en format papier. Voilà. Donc, ils sont disponibles sur LibriNova, sur Amazon, sur Cultura, sur la Fnac, sur les grandes plateformes en ligne, on va dire, sur certaines librairies physiques. Donc, il suffit d'aller chez votre libraire et de demander le nom de l'ouvrage. Et ensuite, le roman peut être commandé directement. Et après, je suis dans des salons, dans des centres commerciaux, un petit peu partout. Les dates sont mises sur Instagram, sur Facebook. Voilà, exactement, c'est ça. Demain, je serai par exemple au salon de Tigi.
On va se pencher maintenant sur une de tes activités primaires. Tu es d'abord, avant d'être... écrivain littéraire, tu es formateur en langue étrangère. Peux-tu nous présenter ton activité et quelles sont les langues que tu enseignes en tant que formateur?
Alors j'enseigne trois langues, j'enseigne l'anglais, l'allemand et l'espagnol. Voilà. Et je donne aussi des cours de français pour donc le FLE, en français, langue étrangère. C'est des cours de français pour des personnes justement qui ne parlent pas du tout français, voilà, et qui ont besoin pour leur métier, pour s'intégrer aussi en France, etc. Donc là, c'est encore autre chose, c'est un autre public, mais très intéressant aussi, d'un point de vue humain, d'un point de vue culturel. Donc, après, je pratique énormément l'anglais, forcément, c'est la langue internationale.
Tu as appris aussi ça grâce à la lecture en anglais, ce que tu m'avais dit.
Oui, alors moi, j'ai appris les langues à la fac. Hein. J'ai fait une fac de langue, voilà. Donc j'ai un master 1 en langue étrangère, et puis après, de par mes langues, je les ai perfectionnées en fait en lisant beaucoup, etc. Je suis aussi l'italien, du portugais, etc. Mais ça, je l'enseigne pas. Donc les langues, voilà, c'est une vraie passion. C'est une vraie passion. J'aime beaucoup mon métier, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si demain on me laissait le choix, je resterais vraiment sur l'écriture et je me lancerais en tant qu'écrivain. Voilà. Je sais que l'écriture, c'est très difficile pour en vivre. Après, on peut essayer, voilà, d'en vivre un petit peu, de dégager un petit salaire sans forcément gagner des millions, mais en tout cas, si demain on me donnait cette possibilité-là, voilà, je pense que je ferais ce choix-là, effectivement, et je lâcherais mes formations pour vraiment me consacrer entièrement à l'écriture. Ouais, c'est ça.
Eh bien, je te remercie beaucoup, Julien, d'avoir pu répondre à mes questions.
Merci à toi de m'avoir reçu, c'est gentil, je t'en prie.
Studio 45 remercie encore la Gaguette Génoise et les participants sans qui cette émission n'aurait jamais eu lieu. Vous retrouvez cette émission très vite, déjà en rediffusion ce samedi à 18h, et sera prochainement mis en format podcast sur le site de Studio 45. À très bientôt!